Terminé.
Tranquille, tranquille.
Non, non, mais dans tout cas, j'ai pas été terminé. Donc, le bourdon, y a deux choses qu'il faut un peu souligner. C'est qu'on va chercher à domestiquer le bourdon, bien évidemment, pour certains de ses comportements biologiques. On l'a vu, pour la tomate, il est plus efficace. Il est aussi utilisé en production de fruits par certains agriculteurs, parce qu'il a une capacité de vol à plus basse température que l'abeille. Il peut voler, il n'a pas besoin du soleil pour se repérer. Donc, même quand il y a des nuages, il peut sortir voler. Bref, il a certains avantages biologiques et surtout, en fait, il va devenir une nouvelle forme de marchandise bien différente des ruches. Et là-dessus, je vais revenir parce qu'en fait, ces bourdons, ils sont commandables toute l'année. On peut déplacer les caisses dans les cultures. Par exemple, si on a 3 serres de tomates, on peut déplacer les ruches dans différentes serres, même si, bon, théoriquement, on ne le fait pas. Normalement, on ne déplace jamais une ruche d'abeilles. Bref, en fait, c'est une forme qui va beaucoup plus convenir à des élevages, à des productions industrielles. On l'achète dans la même coopérative à laquelle on achète ses autres produits et matériels. Bien entendu, il y aura moins de crainte à tuer. Ça, les agriculteurs, les producteurs le disent hein, très clairement. Il y aura moins de crainte de tuer des ruches de bourdon à cause de certains traitements, parce qu'en fait, on n'a de compte à rendre à personne. Alors que quand on va tuer une ruche à cause de certains traitements, lorsque ça arrive, en fait, après, il faut régler le problème des apiculteurs, comme les agriculteurs le disent. Donc, il va falloir dédommager, ça va foutre un gros bordel. Bon, là, il n'y a pas ce problème-là avec le bourdon qui devient un véritable intrant parmi d'autres. Et c'est souvent le terme qui est aussi utilisé par les agriculteurs eux-mêmes qui parlent d'objets jetables. On l'utilise, on le jette, on s'en soucie assez peu. Et c'est une forme de pollinisateur assez critiquée par les apiculteurs qui disent, je vous dis ça, mais vu que j'ai pas vraiment parlé des apiculteurs, je ne sais pas si c'est très clair, mais ils disent, nos abeilles, on veut bien les mettre en location. Chez vous, donc chez des agriculteurs, mais par contre, ce ne sont pas des intrants comme les bourdons. Vous n'en ferez pas ce que vous voudrez. Vous pouvez pas les tuer. Vous n'avez pas tous les droits sur eux. Et ce qui est assez intéressant avec ces bourdons, c'est que quand j'ai passé une après-midi avec une technicienne d'une de ces entreprises, ah oui d'ailleurs, j'ai des prospectus dessus. En fait, elle me parlait des ruches de. On avait les ruches de bourdon qui étaient devant nous. Il y a différents modèles de ruches. Et en fait, le bourdon était seulement présent par son bruit. On entendait juste un bouf, parce que le bourdon était dans les ruches. Sauf qu'elle, à aucun moment de l'après-midi, ne m'a parlé du bourdon en tant que tel, mais de certaines avancées technologiques de la boîte, comme par exemple des nouveaux liquides rouges qui servent à les nourrir. Bref, elle me parlait seulement de la ruche comme objet technique et jamais du bourdon et de cet être vivant qui s'y trouvait. Ce qui détonne pas mal lorsqu'on a déjà ouvert des ruches avec des apiculteurs ou des apicultrices. On nous parle tout de suite, on va chercher la reine, on va nous montrer un peu comment vit la colonie d'abeilles. Là, le bourdon n'était pas vivant à l'intérieur. Bon, mais c'est un peu le stade suprême une forme d'industrialisation de la pollinisation. Et en conclusion, parce que j'en ai fini de mes quelques histoires un peu décousues, ce que je voulais souligner, c'est déjà on voit à travers ces histoires que la pollinisation, qu'on présente souvent comme un moyen écologique d'augmenter les rendements, parce qu'il reposerait sur l'activité d'être vivant, la pollinisation n'est pas seulement limitée à. Ce que certains nomment la révolution écologique en agriculture actuellement, mais on utilise les pollinisateurs. C'est vraiment dans la continuité de toute cette modernisation agricole qui a commencé il y a, je pense, une histoire spécialiste, on va dire il y a un siècle, etc. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les pollinisateurs, comme d'autres entités vivantes en agriculture, et c'est ce que dit Moore, plus ou moins, c'est que ce vivant-là est construit. Comment je pourrais le dire autrement? Moi, je suis toujours un peu, je vais le dire autrement, je suis toujours un peu énervé quand on décrit. Enfin, je trouve pas ça très juste de décrire l'agriculture même très conventionnelle, comme une négation de toutes les formes vivantes. C'est souvent une des manières de décrire l'agriculture, qui reposerait que sur de la mécanisation, de la chimie, alors qu'on voit qu'en fait l'agriculture repose sur le travail de certains êtres vivants, qu'elle va transformer, ce vivant-là dans des ontologies, des catégories d'êtres productivistes. Actuellement, on a d'autres êtres vivants un peu en... On pourrait faire des études, par exemple, de l'essor des vers de terre en agriculture, du travail du sol, d'autres certaines bactéries. Bref, c'est la vie qui est mise au travail et donc qui est transformée, mais qui à aucun moment n'est complètement annulée. Et c'est là-dessus aussi qu'il est très intéressant, sur le travail ethnographique, de suivre à la fois des agriculteurs et des apiculteurs, parce que bien évidemment les apiculteurs, même s'ils décident de louer les colonies d'abeilles, et là on pourra en reparler, n'ont pas du tout la même manière de définir l'activité de leurs abeilles dans les cultures. Bon voilà, j'ai terminé, je termine là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Bien.